Vous êtes sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir. Julien Cellier, Cyprien Sini.
18h40, l'heure chaque soir dans RTL Soir de défaire le monde avec Cyprien Sini, Céline Landreau, Laurent Tessier. L'info sous un autre angle, avec un autre regard jusqu'à 19h. Pouvons-nous connaître le menu, Cyprien ?
Ce soir, on défait le monde vous emmène à l'hôpital psychiatrique. Après les évasions récentes, vous saurez comment sont surveillés les malades les plus dangereux. Au menu également, les prévisions toujours aussi bancales du gouvernement sur la pandémie. Bob Dylan, qui n'est en fait pas Bob Dylan, hein, et votre jus d'orange qui va vous coûter de plus en plus cher. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Et voici le son du jour.
Tout juste échappé d'un asile psychiatrique et surnommé le cannibale des Pyrénées.
Un deuxième homme s'est échappé du même hôpital psychiatrique.
Oui, vous avez certainement entendu ces deux informations, deux évasions de patients dangereux en deux jours de l'hôpital psychiatrique de Toulouse, un de plus hier à l'hôpital d'Agen, une situation qui nous a interpellés avec l'équipe dont défait le monde. Alors, on a voulu creuser pour tenter de comprendre comment s'organise la surveillance des patients dits à risque.
Y a-t-il des hôpitaux spéciaux plus sécurisés pour les soigner ? Sont-ils enfermés comme dans une prison ?
Pour tout savoir, on a contacté Roland Coutenceau, psychiatre et criminologue. Et pour bien comprendre, en gros, il y a trois types de lieux où l'on garde des patients les plus difficiles. D'abord, ceux qui ont affaire à la justice, qui sont pénalement responsables et qui ont besoin de soins psychiatriques. Ils sont placés en UHSA, unité hospitalière spécialement aménagée. Il y en a 9 en France.
Il y a des sujets qui n'ont pas encore été jugés ou des gens qui ont été condamnés, mais on est en prison. Si on simplifie, c'est une prison médicalisée. Donc il y a une sécurité périmétrique qui est gérée par le personnel pénitentiaire. Donc il y a une garde avec des personnels pénitentiaires. Et à l'intérieur de ces murs, vous avez des lits d'hospitalisation. Si on le dit de façon populaire, c'est une prison psychiatrique. C'est une prison dans laquelle il y a une prise en charge psychiatrique très importante du quotidien.
Donc ça, c'est l'UHSA. Et les deux autres alors?
Eh bien, quand un coupable est jugé irresponsable, il est généralement placé dans ce qu'on appelle les UMD, pour unité pour malades difficiles. C'est là qu'était le cannibale qui s'est échappé de Toulouse. En gros, c'est un peu moins coercitif que les UHSA. Il y en a 10 dans le pays.
C'est un hôpital psychiatrique avec une plus grande sécurité. Sécurité à la fois périmétrique de l'enceinte de l'unité pour malades difficiles et sécurité à l'intérieur, dans la mesure où les patients restent dans leur unité. Ils ont une cour intérieure, un peu comme en prison, qui a lieu de garder un certain temps et, pour tout dire, un temps certain, ceux qui ont fait des passages à l'acte spectaculaires et qui ont inquiété la population, qui ont défrayé la chronique. Donc, ils restent longtemps en UMD. Par contre, évidemment, ils n'y restent pas à vie.
Ils vont où après ?
Ben alors, ils sont d'abord évalués et c'est là que tout se passe.
Il y a un moment où se pose la question, est-ce que l'état clinique est assez stabilisé ? Finalement, le test, c'est est-ce que le sujet est transférable ? Une commission l'estime, c'est là qu'est le filtre de sécurité, de mon point de vue, pour la société.
Et si la commission juge que le patient est suffisamment stable, il va
vers un hôpital psychiatrique standard, classique, où là, finalement, la sécurité s'est fait parce que les psychiatres ont estimé que le patient était bien stabilisé, qu'il a un traitement souvent neuroleptique retard, c'est-à-dire qu'un neuroleptique qui diffuse tout au long du mois pour stabiliser son comportement. Mais là, dans ces hôpitaux psychiatriques classiques, il y a peu de sécurité par les murs. Certes, il y a des pavillons fermés, mais dans lesquels on n'enferme pas durablement les patients comme on le fait en unité pour maladies difficiles.
Donc pour faire simple, dans l'hôpital psychiatrique standard, la sécurité, c'est surtout le traitement et les psychiatres. L'hôpital qui ne veut pas être un lieu d'enfermement, mais un lieu de soins.
Les explications ce soir de Roland Coutenceau, le psychiatre.
RTL, sous les radars.
Allez, on va défaire l'info du soir qui est passée sous les radars.
Et elle ne va pas vous donner la pêche, celle-là. Parce que c'est votre jus d'orange. Ah, vous l'avez, du matin, qui va vous coûter plus cher, Laurent.
Oui, savourez votre verre au petit déjeuner demain. Tout ça, c'est de la faute d'un petit insecte volant. Le coupable, le psylle asiatique des agrumes. Il nous vient du sud de l'Asie, sa taille 3 ou 4 mm à l'état adulte. Et il amène avec lui la maladie du dragon jaune.
Résultat.
Voilà, je vais vous expliquer. Les arbres s'affaiblissent, meurent en une dizaine d'années, entraînent la chute des fruits et ça peut donner des oranges plus petites.
Mais alors ça veut dire qu'on va manquer d'oranges quand on ira faire les courses ?
Oui, la production a fortement baissé ces dernières années au Brésil et en Floride. Un exemple, avant l'arrivée de la maladie au début des années 2000, la Floride produisait environ 230 millions de caisses d'oranges chaque année. Là, on est sur une tendance de 45 millions, le plus bas niveau depuis la Seconde Guerre mondiale. Même phénomène au Brésil.
Mais alors, on a quand même un peu des stocks nécessaires pour répondre à la demande si on a tous envie de se faire un petit jus d'orange. Là, comment ça se passe ?
C'est là le problème. Ah. On veut boire plus de jus d'orange depuis le début de la crise sanitaire. Par exemple, quand on est en télétravail, on a plus de temps pour un petit déjeuner maison. Mmh. La consommation a augmenté en un an de 4% pour le jus concentré, plus 10% pour le pur jus. Donc si l'on fait les comptes, un stock en forte chute, plus de demande, et bien résultat, le cours mondial du jus d'orange à la bourse de New York augmente. Si, si, ça existe.
Et donc, il y a un cours mondial du jus d'orange.
Et ça existe, c'est là où ça paraît invraisemblable. Et donc vos bouteilles de jus pourraient coûter plus cher à la caisse du supermarché.
Donc moralité, on évite les oranges qui viennent d'avion depuis la Floride ou le Brésil, c'est ça ? Et on prend l'orange du jardin quand
on
en a.
Du jus de kiwi.
Quand on en a. À Paris, c'est plus compliqué.
Kiwi, c'est dur.
Le kiwi dans le jardin, si ça fonctionne.
Le jus de kiwi, c'est bien.
Si dans le nord du pays, effectivement. Vous êtes très calé en fruits et légumes.
J'adore ça, les fruits et légumes.
Le potager, c'est sa passion.
C'est ma passion. C'est un gars de la terre. Une petite pause, on continue de défaire le monde dans RTL Soir. Première info pour Brayodiné, on va écouter Bob Dylan.
Julien Cellier, Cyprien Sini ont défait le monde. L'info pour briller dans On défait le monde.
On continue de défaire le monde dans RTL Soir. Vous l'attendiez, la voici, la première info pour briller ou pour chanter d'ailleurs au dîner.
Ça concerne un géant de la chanson.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy.
Tambourine Man, Bob Dylan. On vient d'apprendre qu'il a vendu ses droits de toutes ses chansons à Sony pour 200 millions de dollars. Et dire que Bob Dylan, c'est même pas son vrai nom, Laurent.
Vous avez raison, son vrai nom, c'est Robert Allen Zimmerman. C'est à la fin des années 50 qu'il décide de s'appeler Bob Dylan. Alors pendant longtemps, on a parlé d'un hommage au poète gallois Dylan Thomas, qu'il a démenti. Alors une autre hypothèse a circulé, il aurait choisi ce nom quand il était à l'université à Minneapolis, parce que l'un de ses proches s'appelait Dillion. Une orthographe ensuite modifiée pour donner Bob Dylan.
En fait, vous ne savez pas pourquoi.
Une chose est sûre, Julien, c'est que le 9 août 1962, il fait légalement changer son nom auprès de la Cour suprême.
C'est pas simplement un pseudo, il a vraiment changé de nom. Bob Dylan, il est spécial ce garçon quand même.
Il s'appelle vraiment Bob Dylan.
Vous avez déjà vu sur scène Bob Dylan?
Non, mais alors j'écoutais beaucoup de concerts.
Moi, je l'ai vu une
fois. C'est très étrange, non ?
C'est extrêmement étrange. Ouais. Il ne regarde pas le public et il décide que chaque concert est une expérience en soi. Donc il ne joue jamais ses morceaux de la même façon. Donc on essaie de deviner les morceaux qu'on connaît. C'est très spécial. Bon, voilà, faut l'avoir vu une fois dans sa vie.
Mais prix Nobel.
C'est spécial. Prix Nobel.
Prix Nobel de littérature.
On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Sini.
Allez, la voici. L'impitoyable Céline Landreau qui chaque soir désigne le winner ou le loser du jour. Comme souvent avec elle, ça sent un peu la lose.
Un loser collectif, le gouvernement, qui nous vend une sortie de pandémie imminente. Ça fait 2 ans que c'est imminent, Céline.
Bah oui, vous aussi la semaine dernière, quand le docteur Jean Castex nous a dit ça, vous vous êtes senti soulagé.
Je crois pouvoir vous dire que la situation commence à évoluer plus favorablement.
Et ça, démonstration à l'appui.
La vague liée au variant Delta est partout en net reflux. La vague provoquée par le variant Omicron commence à marquer le pas.
Mais oui, tout le gouvernement s'y est mis. Le porte-parole, Gabriel Attal.
Je pense qu'on a des raisons d'être optimistes aujourd'hui.
Et même Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, hier.
Je crois que le plus difficile a été fait. Et aujourd'hui, nous sommes, je crois, en train de voir le bout du tunnel sur cette question. On peut être heureux d'avoir traversé ce tunnel.
Oui, cette fois, c'est la bonne, oui. Mais dans les faits...
À part l'Île-de-France et les Deux-Savoies, le nombre de cas continue d'augmenter partout.
Pourtant, on nous a dit que Delta faiblissait, Omicron aussi, mais...
Faut-il avoir peur du sous-variant BA2 ?
BA2 !
Extrêmement contagieux.
BA2.
Ce variant BA2.
Et voilà le petit dernier, le sous-variant qu'on n'avait pas vu arriver et qui calme un peu nos ardeurs, qui les douche même. Car si vous vous dites que vous avez déjà attrapé Omicron et donc que vous êtes tranquille, vous, eh bien écoutez ce que nous a annoncé ce matin le ministre de la Santé.
On pourrait se recontaminer potentiellement au BA2, même lorsque nous aurions été contaminés au variant Omicron. Ouais.
Voilà, raté. Et c'est pas la première fois que l'exécutif se plante un peu en jouant les épidémiologistes. Rappelez-vous, l'été dernier, le même Jean Castex.
On est sur le bon chemin pour retrouver une vie normale.
Mais bon, normal, c'est quand même un peu moins la normalité qu'avant 2020. Et en mars 2021, il nous disait quoi, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement ?
Retour à des vies plus normales est en vue. Il ne s'agit pas d'un horizon lointain et incertain. Il s'agit d'un horizon de plus en plus proche, peut-être, nous l'espérons, dès la mi-avril.
Oui, ça c'était en mars dernier. Cette normalité-là, elle n'a pas duré non plus. Pourtant, ils auraient dû apprendre de leurs erreurs, car déjà mi-octobre 2020, cette fois, il y a un an et demi, le ministre chargé du tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, l'assurait.
Je dis aux Français, organisez vos déplacements, organisez vos vacances.
Ben oui, les vacances, tout ça, à quelques jours du deuxième confinement.
Bien vu.
Bon, pour cet été, en revanche, on a le droit d'être un peu plus confiant, car là, c'est un scientifique, un vrai, le professeur Delfrécy, qui nous le dit.
Moi, je vois atterrir les choses plutôt vers la mi-mars, avec une baisse progressive très lente en termes d'hospitalisation et un nombre de contaminations qui va doucement finir par baisser.
Allez, encore deux mois à tenir.
Doucement finir par baisser. Bon, on va espérer les projections du président du conseil scientifique sont les bonnes. On va pas s'emballer, effectivement. Petite pause et dans un instant, une nouvelle info pour briller au dîner. On va vous emmener en Afrique juste après ça. Tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir. L'info pour briller. Dans On défait le monde.
18h55, on continue de défaire le monde dans RTL Soir et on vous livre la seconde info pour briller tout à l'heure au dîner.
Direction le Burkina Faso avec ce coup d'état militaire qui a renversé le président Kaboré, un pays qui porte un nom qui ne doit rien au hasard, Céline.
Oui, jusqu'en 1984, ce pays s'appelait la Haute-Volta, du nom du fleuve qu'il traverse. Mais l'ancienne colonie française est rebaptisée cette année-là par son président, Thomas Sankara, combinaison de deux mots tirés de deux des langues principales du pays, Burkina en moré pour l'idée d'intégrité et d'honneur, et Faso en Dioula, qui signifie lui territoire, terre ou patrie. Et c'est ainsi que la Haute-Volta est devenue la patrie des hommes intègres. Le Burkina Faso.
Incroyable, vous êtes totalement bilingue français, Dioula.
Et Moré.
Et Moré,
complètement polyglotte, Céline. Pour autant, j'adore Bob Dylan.
Je
donc,
comprends.
Je vais choisir l'info pour briller au dîner avec Bob Dylan ce soir.
Mais écoutez, on prend.
on prend
un point.
Marche ou rêve.
Allez, tous les soirs, de chouettes moments de radio, on vous appelle, vous nous racontez vos initiatives, vos projets.
Et vous trouvez que le carburant est cher, vous manquez de transport en commun. Vous n'êtes pas les seuls. Et certains ont décidé de prendre les choses en main, Laurent.
Oui, des chauffeurs solidaires se mobilisent pour aider les habitants dans le pays de Ré. On est dans le sud-ouest de la Loire-Atlantique. Bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Vous êtes le président de l'association des Red Chauffeurs, créée en 2015. Alors, comment votre aide s'organise ? On vous appelle, par exemple, pour pouvoir aller faire les courses, aller voir un proche ?
Oui, absolument. Nous sommes organisés avec des référents. Nous couvrons 15 communes de Pornic Aglo. Et nous sommes organisés avec des référents par commune, référents que les bénéficiaires appellent pour organiser un déplacement, qu'il soit médical, course, familial, social, etc.
Et qui peut bénéficier de votre aide, Bruno ?
Toute personne qui se trouve en difficulté, donc qui n'a pas de moyens de locomotion, qui n'a pas de famille proche, de voisins complaisants, qui n'a pas les possibilités financières d'utiliser les services des transporteurs professionnels, donc les taxis, les VSL, etc., qui n'a pas de prescription médicale pour utiliser une ambulance. Donc toutes les personnes qui n'ont pas de possibilité de se déplacer si nous ne sommes pas là.
Et alors comment vous vous organisez vous disiez vous couvrez une quinzaine de communes. Vous êtes nombreux, vous vous faites indemniser malgré tout. Comment ça marche ?
Alors actuellement, nous sommes 230 bénévoles, dont à peu près 160 chauffeurs. Par contre, le bénéficiaire participe financièrement aux frais de déplacement à hauteur de 25 centimes par kilomètre. Il faut savoir qu'en France, vous avez 9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et le seuil de pauvreté, il est fixé par l'INSEE à 1063 euros. Quand vous avez payé votre loyer, votre eau, votre électricité, votre assurance, etc., vous n'avez plus les moyens de payer des frais de déplacement.
Et alors, dans vos 15 communes, il y a combien de bénéficiaires qui profitent comme ça des raids de chauffeurs ?
Alors c'est environ 500 bénéficiaires, ça varie. C'est 50% médical, 25% pour les courses.
50% médical, ça veut dire que c'est des gens, ces bénéficiaires, qui peut-être ne pourraient pas se soigner aussi bien si vous ne proposiez pas ce moyen de transport.
Absolument, c'est tout à fait ça. Ce sont des gens qui ne se soignent plus, qui ne vont plus chez le dentiste, qui ne vont plus chez le médecin, parce qu'elles n'ont pas la possibilité de se déplacer.
Eh bien, si vous êtes en Loire-Atlantique, vous pouvez retrouver toutes les communes concernées par ces déplacements solidaires sur le site redschauffeur.com. www.rtlsoir.fr. Merci Bruno.
Bonne soirée, merci.
Merci Bruno, super initiative. Mmh. Merci à vous les amis. Dans Des Faits le Monde, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures.
À demain, demain.
Soir à 18h.
40.
Très bien, pour l'heure il est quasiment 19h. Sponsor, météo et journal.